extrêmement important. C'est pas Israël qui a choisi Dieu, comme dans les autres religions. C'est Dieu qui a choisi Israël. Mais il n'a pas choisi n'importe qui. Il a choisi le peuple qui était prêt à le choisir à lui. Alors il dit, c'est comme ça. C'est vraiment la vraie hatiba, hatob en arabe, la demande en mariage. Okay, c'est comme ça, alors je vous marie. Mais je vous impose. Mais il n'a imposé qu'à celui qui était prêt à le choisir. C'est vraiment le temps des fiançailles. On ne fiance que ceux qui ont librement choisi d'être mariés. Mais une fois qu'ils sont mariés, c'est le piège. Hein, les Français qui ont une langue très précise disent les 12 chaînes du mariage. D'ailleurs, pour que ça soit clair, on lui offre une chaîne. À qui on lui offre une chaîne ? Raïkharbaché. Qui a été mamad quand vous êtes le plus petit Nicolas Amin de tous les peuples. Ça, c'est un verset secret. Vous êtes le plus petit de tous les peuples. Ça veut dire, ne vous vantez pas d'être le plus grand des peuples. Et ça, moi, je l'ai entendu des goïms, de nous dire, vous êtes le plus grand des peuples. Et je l'ai entendu de grands goïms. Je vais vous raconter, la dernière fois, je l'ai entendu. Mais il y a deux livres, en tout cas, que je voudrais vous signaler, écrits par des goïms, et j'ai oublié, mais ça me revient. Un, c'est Thierry Molnier. Ça existe, ça ? L'honneur d'être juif. L'honneur d'être juif. C'est un grand goïm, ce type, qui aurait pu être un très grand anti-juif. Il a écrit un livre à la gloire des Juifs. Lisez-le, ce livre, ça vaut la peine. Deuxièmement, il y a un auteur français, mais d'origine roumaine. Comment il s'appelle celui-là ? Celui-là, il m'échappe.
Sioran,
très bien. Et il a... comment s'appelle le livre ? La difficulté d'être. Et il y a un chapitre de Chevar sur les Juifs, fantastique. Et on sent que celui-là voudrait être anti-juif. Mais il peut, il, comme Bilham, il est obligé de féliciter les juifs. Mais de manière, je crois qu'aucun juif au monde n'aurait le courage de dire ces choses qu'il a dites. Je vous signale que ça vaut la peine d'être lu. Si je retrouve dans mes archives, en fait dans ma bibliothèque, c'est dans ma bibliothèque, c'est dans des caisses, parce qu'il n'y a pas de local assez grand pour les juifs. Je vous les ferai, faisons en tout cas ce chapitre. Mais Rashi cite Rabbeinu Moshe Darshan, qui lit Hamat de la manière suivante. Vous remarquez qu'il y a un petit astérisque sur le ré dans le texte. Vous y êtes dans votre texte, ça y est, dans votre texte, regardez le mot Hamad, mais répondez. Oui, il y en a un. Bon. Non, enfin, j'ai pas la même édition que vous. Alors, je peux pas entendre le silence. Et alors, Rabbi Moshe Darshan, qui est un des maîtres de Rashi, et c'est important de savoir que Rashi le cite souvent, et Rabbi Moshe Darshan était un sfaradi de Narbonne. D'ailleurs, tous les juifs s'appellent Narboni. Il y a une hazaka qui descend de Rabbi Moshe Darshan. On l'appelait le Narboni. Le Narbonien, je ne sais pas quoi. Donc, c'est un maître sfarad. Et Rashi le cite souvent. Or, on a perdu les archives de Rabbi Moshe Darshan, sauf des midrashim que des moines franciscains ont retrouvés et ont réédité à leur manière. Donc, c'est un peu suspect la manière dont ils ont formulé. Okay, quelqu'un voulait demander quelque chose ? Non. Alors, Rabbi Moshe Darshan dit ceci comme ça. Qui atteint Hemeat Mikolahami, car vous êtes 5 de moins que tout le peuple. Normalement, il devrait y avoir 70 noms en Israël. Au dernier dénombrement du désert, il ne restait que 65 noms. Il y a une sorte de. Comment on dit ça en français ? Oui ? Non. Il y a un défaut d'Achille ? Comment on appelle ça ? J'ai oublié, un talon d'Achille, c'est Tzad Nukba. Il y a un manque dans l'identité d'Israël. Dans les pérégrinations du désert, et vous verrez le dénombrement dans la paracha de Pinchas, à la suite des différentes mises à l'épreuve d'Israël, il y a un certain nombre de noms qui disparaissent. Je vais vous les citer d'ailleurs. C'est Datan et Abiram, les révoltes des chefs des tribus. C'est Nadab et Abihu, la faute des enfants de Aaron. La faute des prêtres. C'est Tselophrad qui a violé le Shabbat. La faute du Stam Yehudi. Et Korach, la Mahloké des Talmidei Chachamim. Il y a 6 noms qui ont disparu. Et dans la parasha de Pinchas, relisez le dénombrement, la Torah explique chaque fois pour ces noms-là qu'ils ont disparu et pour quelle faute. On finit de faire le compte, on voit qu'il en reste que 65. Et c'est là que Rashi cite Rabbi Moshe Darshan en disant vous êtes 5 moins que le nombre que vous devriez être, c'est-à-dire 70. Il y a, grâce aux filles de Selofrat, la Torah, en deux endroits, elle donne leur nom et indique qu'elles étaient 5. Elles ont réintégré 5 noms en Israël, c'est les 5 filles de Selofrat. Et il y a en tout cas 65 noms plus les 5 des filles de Selofrat. Il y a un défaut de la cura, je ne sais pas comment dire les mots. Il y a une vulnérabilité dans l'identité d'Israël. On est rentré dans l'histoire avec cette vulnérabilité, mais on est protégé par les Nashim Tzadkaniyot, dont le modèle sont les filles de Selofrat. Nashim Tzadkaniyot, ça veut dire les femmes tzadik. Tzadkaniyot en hébreu, c'est le pluriel féminin. Et vous remarquez que chaque fois qu'il y a un moment de gravité dans l'histoire d'Israël, on est sauvé grâce aux femmes. Et nous vivons un moment pareil. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point les femmes sont plus militantes que les hommes dans le retour à la Torah, dans la politique juive elle-même. C'est le temps des organisations féminines qui sauvent la communauté. Je pousse un peu les choses à la limite pour mettre bien ça en évidence. J'étais enfant dans un temps où ce n'était pas comme ça. Subitement, on s'aperçoit que c'est les femmes qui dirigent la communauté. Et bien, c'était comme ça à la sortie d'Égypte. C'est grâce aux femmes d'Israël que les défauts d'Israël ont été colmatés de la génération de la sortie d'Égypte. En particulier, elles n'ont pas participé à la faute du veau d'or. Vous connaissez cela ? À la faute du veau d'or. À la faute du veau d'or. Lorsque Aaron a dit « Prenez vos bijoux », eh bien, les femmes ont refusé de donner leurs bijoux. Les hommes l'ont donné. Alors, deux explications. Les femmes étaient tellement coquettes qu'elles n'ont pas voulu donner leurs bijoux. Deuxième explication, elles n'ont pas voulu participer à la faute. Et on apprend que c'est la deuxième explication qui est vraie. Comment ? Lorsque Dieu a demandé à Moïse d'organiser le tabernacle, il a demandé que la cuve d'airain où les Lévites devaient se purifier soit faite par les miroirs des femmes. C'est un marot à tzorot. Alors le Midrash dit que Moïse a dit à Dieu, comment ? Je vais faire la cuve d'airain où les Lévites vont se purifier avec cet instrument du diable que sont les miroirs des femmes. Et vous voyez la Torah de Moïse, qu'est-ce qu'elle dit à ce propos? Alors Dieu lui répond, c'est grâce à ces miroirs que j'ai un peuple d'Israël. Quand le pharaon a décrété les travaux forcés des Hébreux dans le camp de concentration, le soir ils arrivaient fatigués, ils n'avaient pas envie d'avoir d'enfants. Grâce aux miroirs, les femmes se tamponnaient et il y a eu des enfants. Alors c'est grâce à ces miroirs que Israël existe. Vous voyez le raisonnement du Midrash. Bon, je referme la parenthèse. Et donc, l'argumentation que donne, je m'aperçois que je suis en train de vous répondre à un cours, à une question du cours de la dernière fois. Ah non, on est déjà dans le cours de vous. L'argumentation du, comment dire, de la Torah, pourquoi Israël a été élu. Ne pensez pas que parce que vous êtes un grand peuple. C'est dans une autre idée qu'Israël est un grand peuple. Il y a une stature spirituelle gigantesque. Mais ce n'est pas les motivations de volonté de puissance habituelles, les grandes puissances. C'est ça que je voulais dire.
Le Rashi est très clair.
Sur ce verset, cite-le. C'est-à-dire, vous êtes le seul peuple qui ne joue pas la grande puissance. Dès que Tzal lève le petit doigt, le monde entier est à genoux. Mais Israël ne joue pas la grande puissance. C'est un peu ce que fait les autres. Atem et Maratina, vous êtes modeste. De là, on apprend qu'il faut être modeste. Si on est modeste, on est fort. Le verset 8. Qui met à Havat Hashem Etrem. Ça vient de ce que Dieu vous a aimé. C'est mystérieux, ça. Qu'est-ce que Dieu a vu pour aimer les Juifs? Donc, nous disons pour l'amour de Dieu, pour l'amour de Dieu. Et lui, quand il discute avec les anges, il dit pour l'amour des Juifs, pour l'amour de Dieu. C'est étrange. Bon, il doit savoir ce qu'il fait. Qui met à Havat Hashem Etrem par le fait que Dieu vous aime. Mais voilà la clé. Unishomro et Tachevoa, le fait qu'il préserve, qu'il garde, il y a un autre mot français, qu'il observe le serment qu'il a juré à vos pères, aussi Hachem Etrem et Atrazaka, Dieu vous a fait sortir à main forte, Vaïvzecha Mibet Avadim, il nous a délivré de la maison des esclaves, Miat Paron Melech Mitzrayim, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Alors vous voyez quelle est la motivation. Voilà pourquoi vous êtes élu. Veyadarta, et tu sauras que Hachem Elokecha, que Hachem ton Dieu, ou Elohim, c'est lui qui est Dieu. Ael Aneeman, Dieu fidèle, c'est la traduction habituelle. En hébreu, ça veut dire Dieu à qui on peut faire confiance. El Neeman. Je ne sais pas s'il y a un mot en français qui traduit exactement ça. Dieu digne de confiance. Neeman. Fidèle, c'est Ma'amin. Le fidèle, c'est celui qui fait foi. Mais Neeman, c'est celui à qui on fait confiance. El Neeman, ça veut dire Dieu. Digne de foi, je ne sais pas si ça correspond. Non, pas loyal. Fiable, oui. Dieu en qui on peut croire. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça, s'il est Dieu? Et la réponse du Midrash, c'est que Dieu observe lui-même la Torah qu'il nous a donnée. Torah Tachem, en hébreu, ça ne veut pas seulement dire la Torah que Dieu nous a donnée. Ça veut dire sa Torah à lui. Torah Tachem, la Torah que lui observe. Alors quelqu'un qui observe lui-même la loi qu'il me demande d'observer, à lui je peux faire confiance. Enfin, je connais sa Torah. Je sais comment il agit. Je sais comment il se conduit. Elle-même. On peut lui faire confiance parce que, et c'est comme ça qu'on commence au Midrash Rabba. Dieu avait la Torah devant les yeux pour créer le monde. Il a créé le monde avec un modèle qui est la Torah. Ça veut dire qu'il est lui-même, d'une certaine manière, soumis à la Torah qu'il nous impose. Donc on peut lui faire confiance. Nous savons comment il réagit. Il est digne de foi, littéralement, hein, parce qu'il est croyant. Je ne sais pas si c'est clair. Je vais raconter une anecdote que j'ai souvent racontée, mais ce n'est pas une anecdote en le rattachant à ce sujet. J'ai un excellent ami, on faisait partie des mêmes équipes sorties de la guerre à l'UEJF, et c'était un mouvement avec toutes les tendances juives. Là, c'est une grande époque parce qu'on a assuré l'unité, en tout cas de la jeunesse juive, à bout de bras, des communistes aux sionistes, en passant par les religieux. Je ne sais pas si vous voyez ce parlement juif au niveau de l'UEJF. C'est une époque héroïque. On passait des heures en conseil d'administration pour arriver à avoir des motions communes. Parce que les étudiants, ils ont une maladie à faire des motions. Ils sont pleins d'émotions. De la même manière que les universitaires ont une maladie grave, la coloquinte. Ils font des colloques. Alors, en tout cas, pour revenir au sujet, les principaux chefs des tendances, on se réunissait avant la réunion, un quart d'heure, on disait jusqu'où tu veux aller, pas plus, jusqu'où tu veux aller, pas plus. Et on rédigeait une motion qu'on connaissait à l'avance. Et on se disputait toute la nuit pour y arriver. C'était pas du chiquet. Chacun avait ses troupes, sa tendance, ses consignes. Je ne sais pas si vous voyez qu'est-ce que c'est que le Parlement juif. Mais on savait qu'il fallait arriver à l'unité. Bref, j'avais un excellent copain qui était un des réfugiés des camps de concentration de Russie. Enfant, et il était donc adolescent. Et puis, lui était complètement athée, des jeunesses marxistes. Et imaginez ce que ça peut être, les jeunesses marxistes, quand on y croit à cette époque. Un jour, j'étais dans un colloque d'ailleurs, quelques années après, je colloquais avec lui, et puis, à la fin de son exposé, il dit, écoutez, moi je ne peux pas me disputer avec Manitou, on est amis, mais je veux que vous sachiez que moi je ne crois pas en Dieu. Alors j'ai réagi en lui disant, écoute, ça c'est pas grave, l'essentiel c'est que lui croit en toi. Et ça s'est arrangé comme ça. Alors effectivement, qu'est-ce que c'est que les Juifs? C'est pas les gens qui croient en Dieu, première des lignes, c'est les gens en qui Dieu croit. Et lui, c'est pourquoi? Je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit là. Et lui, c'est pourquoi. Mais vous voyez, nous avons un texte très clair. Et il faut remettre les pendules à l'heure, comme disent les horlogers. Alors c'est ça, Haïl Aneeman, Shomer HaBerit, qui garde l'alliance, vers Chesed et la charité, la grâce qui fait l'Eurava à ceux qui l'aiment. Non, l'Eurava, c'est à ceux qui l'aiment. Eurava, traduisez-moi, je suis perdu dans cette grammaire-là. Qui l'aime à lui, c'est ça. Ou le chômeur mis au tard, et qui observe ses commandements. Les deux, mille générations. Donc Shalem, Nesona, Velpana, Vleavido, et qu'il paye à ceux qui le haïssent, pas à travers mille générations, Miyad, Velpana, comment dire, sur l'heure, à, pour le détruire, Loyacher, Nesono, il ne tardera pas à le haïr, Velpana, Vleavido, devant sa face, il le rétribue. Petite parenthèse, il le rétribue, ça veut dire qu'il sanctionne sa conduite, en mal, il le punit, et le peu de bien qu'il a fait, il n'y a pas de recharge, il n'a pas fait un peu de bien, il le lui paye tout de suite, comme ça il est perdu pour le lendemain. Ça rattaché à une des questions très graves de la théologie, pourquoi il y a des rechaïm qui sont heureux sur terre? C'est mauvais pour eux, parce qu'ils utilisent leur compte en banque à l'avance. Vous voyez comment je veux dire. Et puis on arrive au début de notre paracha. Ve'aya, il arrivera, Ekev Tishmeu. Ekev, aidez-moi à traduire. Ekev, le mot en hébreu, ça veut dire en conséquence de ce que. Ça se rattache au mot de Akev, qui signifie le talon. Le talon est à l'extrémité du corps. Et donc, Ekev, ça veut dire ce qui arrive en fin de compte. Et donc, on peut comprendre de deux manières. Soit c'est la conséquence automatique, soit c'est la condition, parce que, puisque. Et il arrivera, parce que, puisque, Tishmaoun, vous aurez observé, écoutez, et à Mishpatim, les règles, à Elé, ces règles que je vous donne, ces mitzvot, ces lois que je vous donne, ou Shmartem Vasitemotam, que vous les préserviez et que vous les accomplissiez, Veshamar, Hashemelokechalecha et Averil et Tachesed, alors Dieu gardera pour toi l'alliance et la grâce, Hashemishbar Lavotecha, qu'il a promis à tes pères. Bon, alors vous voyez la difficulté. On vient de nous dire qu'il y a une alliance et une élection irréversible qui ne dépend pas de nous, qui ne dépend pas de nos mérites, et maintenant on nous dit qu'il arrivera en conséquence de ce que, on pourrait penser que c'est une condition, si. En conséquence de ce que vous accomplissiez le commandement, Dieu gardera la promesse qu'il vous a faite. Comment répondre à cette question? Vous avez entendu la question? Comment répondre à cette question? Qui a réfléchi à ça, déjà?
Si vous correspondez à l'image que vous avez dit.
Mais vous, c'est vous, quelle que soit l'image. Il y a dans la Gemara, cette discussion est très longue dans la Gemara. Est-ce que Israël reste Israël même s'il a fauté? Et la réponse de la Gemara, c'est Israël, Afralpi Shehata, Israël. Un Israël, un membre d'Israël, même s'il a fauté, c'est Israël.
Mais la promesse à Abraham était une promesse inconditionnelle, tandis qu'ici on se peut encore une promesse conditionnelle.
C'est cette apparence qui pose problème, c'est la raison pour laquelle j'ai posé la question. Oui. D'une part, jusqu'à la fin de Vaikranan, la Torah nous explique pourquoi nous avons été choisis, c'est irréversible. Et juste après, semble-t-il, il y a des clauses. Vous voyez la difficulté? C'est clair? J'ai fait allusion en posant le problème de la paracha tout au début du cours. Je vous ai dit, gardez cette question en l'air. Okay? Je vous donne un exemple. Dans la Gemara, on cite les expressions des prophètes lorsque les prophètes font la morale à Israël. Et vous savez, je ne sais pas si vous étudiez les prophètes, mais il faut lire les prophètes, les grands prophètes et les petits. Les Névi'im, okay? Et vous avez de ces interpellations terribles. Je crois, sans exagérer, il n'y a pas de vocabulaire plus antisémite, si c'était dans la bouche des Goïm, que ce que les prophètes ont dit des Juifs, d'Israël. Okay? Il y a une expression, Banim Mashkikim, enfant dénaturé, Zera Meleim, engeance de pervers. Alors la Gemara dit, dans la discussion de la Gemara, enfant dénaturé, alors vous n'êtes plus. Dénaturé. La Gemara répond, non, il y a écrit enfant dénaturé. Même dénaturé, vous êtes enfant. Vous avez compris comment la Gemara lit? Et ça pose d'autant plus de problèmes. Hein? Alors, solution. Je voudrais que la question soit bien comprise comme question. Je profite pendant que vous réfléchissez, vous avez une question de méthode. C'est dans l'étude talmudique. Il ne faut pas croire que parce qu'on a la réponse à une question, que la question s'est évanouie, qu'elle a disparu. Il y a la chorma des questions et la chorma des réponses. Et alors, ceux qui n'arrivent pas à devenir Tamid Haram, c'est ceux qui oublient les questions parce qu'ils ont entendu des réponses. Alors finalement, ils ne savent pas à quoi la réponse répond. Et la réponse elle-même s'évanouit. Vous avez compris le problème. Il y a la forme des questions et la forme des réponses. On ne peut pas, un talmudiste, comment dire, apprenti talmudiste commence par là. Et je veux dire que l'un de mes maîtres m'avait expliqué ça. Il dit, toi tu as eu la réponse. Mais au moment où tu as la réponse, il y a un enfant qui naît. Et pour lui, la question se repose. Donc il ne faut pas croire, les vraies questions sont éternelles. Hein? Est-ce que c'est clair? Et pour bien comprendre une réponse de la Torah, il faut savoir à quelle question ça répond. Je me rappelle quand j'étais étudiant de Torah, on apprenait Rashi. La première question que le maître me posait, c'était en judéo arabe, c'est, vous vous rappelez ça, ça va attraper ta jeunesse. Ashkshale Rashi. Quelle difficulté a eu Rashi? Si on ne sait pas la question que s'est posée Rashi, on ne comprend pas Rashi. Alors avant de traduire Rashi, on se disait, avant d'étudier Rashi, on l'étudiait, la Rashi en tant que réponse de quoi? Quand on avait attrapé la question, on revenait sur la réponse. Ashkshale Rashi. Et je me rappelle, on avait des juifs tétouanés. Vous savez ce que c'est les juifs tétouanés? Les juifs noirs espagnols qui ont une prononciation à part. Ils ont gardé la prononciation d'Espagne. Et alors, il disait, j'ai mal à ma tête. Rassé, en arabe, c'est ma tête. Il disait, Rashi, j'ai mal à Rashi. Bon, je reviens à l'hébreu et au français. Alors vous voyez, d'un côté, il y a cette indication que l'alliance avec Israël est irréversible. Et de l'autre côté, il y a cette clause. Elle jouera que si vous êtes sage, si j'ose dire. Vous entendez la contradiction? Alors, vous supposez que pour une question aussi énorme, il y a différents systèmes de réponses. Et malheureusement, je vois qu'on arrive à l'heure. Alors, je vais en dire un, qui est ceci. C'est une étude, et si vous voulez que quelqu'un me rappelle la question la semaine prochaine, on la reprendra, ça va d'accord. C'est une étude sur une expression talmudique sur la sanction des commandements, la rétribution des commandements. C'est Matan Sraran Shel Mitzvot. Je traduis. Le don, le cadeau du salaire des commandements. Mais si c'est un salaire, Srar, c'est pas un cadeau. Et si c'est un cadeau, c'est pas un salaire. Alors on va passer par là. Pourquoi les rabbins ont appelé ce que nous recevons comme récompense de nos vertus un cadeau? Ou bien c'est un srar, un salaire, ou bien c'est un cadeau. Mais qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? C'est très joli. Matan sraran, le fait de me donner, de me faire cadeau de mon salaire. Mais si c'est mon salaire, c'est pas un cadeau. Si c'est al piadin que j'ai droit à la récompense des commandements, c'est-à-dire en fin de compte, en la main bas, c'est al piadin. Si c'est un cadeau, c'est un cadeau. Je ne vous ai pas encore montré le rapport avec la question. Mais c'est par là qu'on va passer. Et je veux d'abord que vous attrapiez l'expression du Talmud. Chez Eyata Yodea, Matan Skaram Shel Mizot. Car tu ne connais pas le don du salaire de Mizot. Donc sois scrupuleux pour toutes les Mizot, parce que tu ne connais pas quelle est la rétribution. Tu pourrais croire ça, c'est un gros salaire, je fais. Ça, c'est un petit salaire, je ne fais pas. Par exemple, elle. C'est, par exemple, cette Mishnah, mais il y a aussi dans d'autres Mishnah. Veda, chez Matan, Sraran, chez Tzadikim, n'est Atid Lavo. Et sache que le cadeau du salaire des Tzadikim, c'est pour l'avenir, c'est-à-dire la Ramabash. Alors voilà, une des réponses, hein, parce que l'heure avance, mais. Comment dire, on reprendra peut-être si vous voulez la semaine prochaine, rappelez-le-moi, je vais le marquer, mais rappelez-le-moi. C'est ceci. Si c'était Alpiadim, je n'ai le salaire qu'au prorata de mon mérite. Tandis que ce que le texte promet, c'est qu'il va me donner le salaire que lui suppose quand lui applique la mitzvah. C'est pas clair? Veshamar lecha et aberik l'utachesed. Ça veut dire la rétribution sera au plus haut taux. Pas au taux de vos mérites. C'est pourquoi le salaire, c'est au niveau de votre mérite. Mais il y aura le cadeau du salaire qui dépasse considérablement le mérite. Ça veut dire, c'est clair? Je vais petit à petit, hein, parce que c'est un problème. Alors on va voir de quelle mitzvah Rashi, sur quelle mitzvah Rashi met l'accent. Reprenez le premier verset de la paracha. J'ai avant une surprise. Derrière Ekeltishmeum, ça va faire plaisir aux touristes. Derrière Ekeltishmeum, et il arrivera en conséquence de ce que vous observez les commandements des Rachis. Et ma mitzvot akalot, si les mitzvot, c'est moi qui ajoute, qui vous apparaissent légères. Chez Adam Dash Berakavar Tishmeum, que l'homme a l'habitude de piétiner avec son talon, si vous les observez. Akev renvoie à Akev. Quelle mitzvah on fait en piétinant avec son talon? C'est la mitzvah de marcher sur Eretz Israël. Si cette mitzvah vous accomplissez, vous aurez Olam Haba. Vous voyez comment ça marche, Rachid? Effectivement, il y a une mitzvah qu'on fait avec son talon. C'est quand on fait des timlim en Eretz Israël. Et je ne vous ai rien inventé, je vous ai lu Rachid. Qu'est-ce que c'est une mitzvah qu'on écrase avec le talon? C'est le tioul. Alors, bon tioul. Donc, je voudrais, avant qu'on se quitte, dire à Michel Bérard pour notre ami Jean Vassal. Vous vous levez, je dis Michel Bérard. Et si quelqu'un a à dire Kaddish, il dit Kaddish en Israël.